La Maison Blanche n'était jamais aussi belle que pendant les fêtes de fin d'année. Les murs de la colonnade et du grand couloir de l'aile ouest étaient ornés de couronnes de pins fermées par des nœuds rouges, et dans la roseraie, les chênes et les magnolias étaient constellés de lumière. Le sapin de Noël officiel de la Maison Blanche, un arbre majestueux apporté par une voiture tractée par des chevaux, occupait presque tout le salon bleu. Mais on trouvait des arbres presque aussi spectaculaires dans tous les espaces ouverts au public. Pendant 3 jours, une armée de volontaires coordonnée par le secrétariat social avait décoré de manière étourdissante les arbres, les couloirs et le grand hall, tandis que les chefs pâtissiers préparaient une maquette du bâtiment historique en pain d'épices, poussant la précision jusqu'à ajouter les meubles, les rideaux et, du moins sous mon mandat, une version miniature de Beau. Durant cette période, nous organisions des réceptions pratiquement tous les après-midi et tous les soirs pendant 2 semaines et demie. C'était de grandes réjouissances, accueillant chaque fois 200 ou 300 invités qui plaisantaient en mangeant des côtes d'agneau et des cakes au crabe, buvaient du lait de poule et du vin, tout cela au son des standards de circonstance joués par la fanfare du corps des Marines en grand uniforme écarlate. Pour Michel et moi, les réceptions en journée étaient simples. Nous n'y faisions qu'une brève apparition et, derrière un cordon, présentions nos vœux à toute l'assemblée. Mais les soirées, elles, exigeaient que nous passions au moins 2 heures dans le salon de réception des diplomates et prenions des photos avec presque tous les convives. Michel s'y pliait volontiers lors des fêtes que nous organisions pour les familles des membres du Secret Service et du personnel de la résidence, malgré la douleur que lui causaient les chaussures à talons quand elle devait les porter pendant plusieurs heures d'affilée. Mais lorsqu'il s'agissait des parlementaires ou de la presse politique, son esprit de Noël avait tendance à s'envoler, soit parce qu'il réclamait davantage d'attention, « Arrête de papoter comme ça !» me chuchotait-elle pendant les accalmies, soit parce que certaines personnes qui demandaient régulièrement la tête de son mari sur les plateaux de télévision avaient le culot de passer un bras autour de ses épaules et de sourire pour la photo comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Mais dans l'aile ouest, au cours de ces semaines précédant Noël, mon équipe consacrait principalement son énergie aux 2 textes les plus controversés qui restaient sur ma liste. « Don't Ask, Don't Tell » (DADT) et « Le Dream Act ». Au même titre que l'avortement, les armes et à peu près tout ce qui avait trait aux questions raciales, les droits des personnes LGBTQ et l'immigration se trouvaient depuis des décennies au centre des guerres culturelles de notre pays, parce qu'ils soulevaient la question la plus fondamentale qui soit dans notre démocratie. Qui peut être considéré comme un membre à part entière de la famille américaine et mérite donc les mêmes droits, le même respect et la même attention que nous? J'étais partisan d'une définition large de cette famille, englobant toutes les orientations sexuelles ainsi que les familles immigrées qui s'étaient établies sur notre sol et y élevaient des enfants, même lorsqu'elles n'étaient pas entrées par la grande porte. Comment aurait-il pu en être autrement, alors que les arguments avancés pour les exclure avaient été si souvent utilisés pour exclure les gens comme moi? Pour autant, je n'estimais pas que les personnes ayant un avis différent du mien sur les droits des LGBTQ et des immigrés étaient cruelles et intolérantes. D'une part, j'avais assez de recul, ou en tout cas assez de mémoire, pour savoir que ma propre attitude vis-à-vis des personnes homosexuelles et transgenres n'avait pas toujours été particulièrement éclairée. J'ai grandi dans les années 1970, une époque où ces groupes avaient moins de visibilité en dehors de leur communauté, au point que la sœur de toutes, ma tante Arlène, une de mes tantes préférées, se sentait obligée de présenter sa compagne Marge, avec qui elle partageait sa vie depuis 20 ans, comme sa meilleure amie lorsqu'elle venait nous voir à Hawaï. Et comme beaucoup d'adolescents à cette époque-là, il nous arrivait à mes amis et à moi d'employer des mots insultants tels que « tafiole » et « pédale », tentant ainsi bêtement d'asseoir notre masculinité et de cacher notre manque de confiance en nous. Mais lorsque je suis arrivé à l'université, j'ai noué des liens d'amitié avec des étudiants et des professeurs ouvertement homosexuels, et j'ai pris la mesure des discriminations et de la haine qu'ils subissaient, ainsi que de la solitude et des doutes que la culture dominante leur imposait. Alors j'ai eu honte de mon comportement passé et j'ai appris à m'améliorer. Quant à l'immigration, ce n'était pas un sujet qui me préoccupait beaucoup pendant ma jeunesse, au-delà de la vague mythologie populaire entourant Ellis Island et la Statue de la Liberté. Je n'ai développé une véritable réflexion que plus tard, à Chicago, quand mes activités associatives m'ont fait rencontrer la population principalement mexicaine de Pilsen et de Little Village, des quartiers où la distinction habituelle entre Américains de souche, citoyens naturalisés, détenteurs de cartes vertes et immigrés sans papier, n'avaient pratiquement plus cours puisqu'on trouvait les 4 dans chaque foyer ou presque. Avec le temps, ces personnes ont commencé à me raconter ce que cela fait de devoir cacher son identité, de craindre en permanence que la vie dans laquelle on a investi tant d'efforts ne soit chamboulée en un instant. Elles m'ont raconté la fatigue et le coût financier de devoir se battre contre un système d'immigration arbitraire ou impitoyable, le sentiment d'impuissance qui s'installait à force de travailler pour des employeurs profitant de leur statut pour les payer en dessous du minimum légal. Les amitiés que j'ai nouées et les histoires que j'ai entendues dans ces quartiers, mais aussi de la bouche de personnes LGBTQ pendant mes études et le début de ma carrière, ont ouvert mon cœur aux dimensions humaines de questions que je considérais jusque-là dans des termes plutôt abstraits. Pour moi, le cas « Don't ask, don't tell » était simple. Une politique qui obligeait les militaires LGBTQ à taire leur orientation sexuelle était à la fois contraire aux idéaux de notre pays et toxique pour nos forces armées. DADT était le résultat d'un compromis vicié entre Bill Clinton, qui avait promis durant sa campagne de révoquer la loi interdisant aux LGBTQ de s'engager, et ses chefs d'état-major, qui affirmaient que ce changement saperait le moral et la tenue des troupes. Depuis sa prise d'effet en 1994, DADT avait peu fait pour la protection ou la dignité des personnes et avait, au contraire, motivé le renvoi de plus de 1300 militaires sur la seule base de leurs orientations sexuelles. Les autres devaient cacher leur identité et leurs amours, ne pouvaient afficher sereinement des photos de leur famille dans leur espace de travail ou participer à des rassemblements avec leurs compagnes ou compagnons. Puisque j'étais le premier commandant en chef afro-américain, il m'incombait tout particulièrement de tirer un trait sur cette politique, car je savais que les Noirs avaient subi les préjugés de l'institution, s'étaient vu interdire l'accès au poste de commandement et avaient été contraints pendant des décennies de servir dans des unités ségrégées, des règles finalement abrogées en 1948 par un décret de Harry Truman. Restait à décider comment j'allais m'y prendre. Depuis le début, les militants LGBTQ me poussaient à suivre l'exemple de Truman en abolissant cette politique par un simple décret, d'autant plus que j'avais déjà légiféré par décret et circulaire dans d'autres domaines où les personnes LGBTQ étaient discriminées, tels les droits de visite à l'hôpital et l'extension des prestations sociales aux conjoints et conjointes de fonctionnaires fédéraux. Mais en contournant le vote et la formation du consensus qui l'accompagnait, un décret risquait de durcir les résistances au sein de l'armée et de compliquer la mise en application de la nouvelle politique. Sans compter que le président suivant n'aurait besoin que d'une simple signature pour l'annuler. J'en avais conclu que la meilleure solution serait de pousser le Congrès à agir. Pour cela, j'aurais besoin de la coopération active et volontaire du haut commandement, ce qui ne serait pas chose facile alors que nous menions deux guerres de front. Les précédents chefs d'état-major s'étaient opposés à l'abrogation de DADT, arguant que l'incorporation de personnes ouvertement homosexuelles pourrait compromettre la cohésion et la discipline des unités. Au Congrès, les adversaires de l'abrogation, dont John McCain, affirmaient qu'un changement de politique aussi radical en temps de guerre équivaudrait à trahir nos troupes. Je dois reconnaître à Bob Gates et à Mac Mullen de ne pas avoir tiqué quand je leur ai annoncé, au début de mon mandat, mon intention de revenir sur DADT. Gates a répondu qu'il avait déjà demandé à son équipe de commencer à établir discrètement un planning en interne, moins par enthousiasme personnel que par souci pratique. Il existait une possibilité que des tribunaux fédéraux déclarent DADT anticonstitutionnel et obligent l'armée à un changement brutal. Au lieu d'essayer de me faire revenir sur ma décision, Mullen et lui m'ont demandé de les laisser monter un groupe de travail pour évaluer les conséquences potentielles sur les opérations militaires. Groupe de travail qui finirait par entreprendre une enquête à grande échelle au sein des forces armées pour savoir ce qu'elles pensaient de la présence de personnes homosexuelles dans leur rang. L'objectif, m'a expliqué Gates, était de prévenir autant que possible les troubles et les dissensions. « Si vous voulez le faire, monsieur le Président, a-t-il ajouté, il faut au moins qu'on puisse vous dire comment le faire bien. » J'ai signalé à Gates et à Mullen que la discrimination envers les LGBTQ n'était à mes yeux pas une question sujette à plébiscite. J'ai néanmoins accédé à leur demande parce que je leur faisais confiance pour concevoir une procédure d'évaluation honnête, mais surtout parce que je me doutais que leur enquête révélerait que nos troupes, dont la majorité avait plusieurs décennies de moins que les hauts gradés, faisaient preuve d'une ouverture d'esprit insoupçonnée envers les gays et les lesbiennes. Lors de son audience du 2 février 2010 devant la commission des forces armées du Sénat, Gates a confirmé mon intuition en apportant son soutien plein et entier à ma décision de réexaminer DADT. Mais c'est Mullen, témoignant le même jour devant cette même commission, qui a défrayé la chronique en devenant le premier commandant militaire américain en activité à affirmer publiquement que les personnes LGBTQ devaient pouvoir s'engager dans l'armée sans avoir à dissimuler leur orientation sexuelle. Monsieur le Président, je suis convaincu, et je parle en mon nom propre exclusivement, que permettre aux personnes homosexuelles de servir sans se cacher est la meilleure chose à faire. J'ai beau examiner cette question sous tous les angles, je ne peux m'empêcher d'être troublé par le fait que la politique en vigueur oblige de jeunes hommes et femmes à mentir pour avoir le droit de défendre leurs compatriotes. Pour moi, c'est une affaire d'intégrité, la leur en tant qu'individu et la nôtre en tant qu'institution. Mullen n'avait pas fait viser préalablement son intervention par la Maison-Blanche. Je ne suis même pas sûr que Gates ait su à l'avance ce qu'il avait l'intention de dire. Mais cette déclaration catégorique a immédiatement déplacé le débat public et braqué les projecteurs sur les sénateurs indécis, leur donnant ainsi une bonne raison de se ranger du côté de l'abrogation. Plusieurs mois devaient encore s'écouler entre l'audition de Mullen et la fin de l'enquête que Gates et lui avaient commanditée, ce qui nous a valu quelques migraines. Les partisans de l'abrogation nous sont tombés dessus, en privé comme dans la presse, car ils ne comprenaient pas ce qui m'empêchait de légiférer par décret alors que le président du comité des chefs d'état-major était favorable à un changement de politique. D'autant que, pendant que nous prenions tout notre temps pour achever notre étude, des militaires LGBTQ continuaient à être renvoyés. Valérie et son équipe ont encaissé le plus gros des tirs venant de notre propre camp, et tout particulièrement Brian Bond, un militant gay très estimé, qui était notre principal agent de liaison avec la communauté homosexuelle. Des mois durant, Brian a dû défendre mon processus décisionnaire face à des amis sceptiques, d'anciens collègues et des journalistes qui sous-entendaient qu'il avait été récupéré et doutaient de la véracité de son engagement. Je ne peux qu'imaginer sa souffrance. Les critiques ont franchi un nouveau cap en septembre 2010 quand, conformément aux prévisions de Gates, un tribunal fédéral de Californie a jugé DADT contraire à la Constitution. J'ai demandé à Gates de suspendre officiellement toutes les procédures de renvoi le temps que l'affaire passe en appel. Mais j'ai eu beau insister, il a toujours refusé au motif que, tant que DADT était en vigueur, il avait l'obligation de l'appliquer. Et je savais que, si je lui donnais un ordre qu'il jugeait abusif, je devrais me trouver un nouveau secrétaire à la défense. C'est peut-être la seule fois que j'ai été à deux doigts d'incendier Gates, et pas uniquement parce que son analyse légale me paraissait erronée. Il semblait considérer l'irritation des militants LGBTQ, ainsi bien sûr que les angoisses des militaires homosexuels qui se trouvaient sous sa responsabilité, comme une broutille politique dont je devais le protéger ainsi que le Pentagone, et non pas comme un élément central de sa réflexion. Il a tout de même fini par modifier les aspects administratifs de DADT pour que l'instruction de la quasi-totalité des dossiers soit suspendue le temps que cette question soit résolue. Heureusement, vers la fin du mois, les résultats de l'étude sont enfin tombés. Ils confirmaient ce que je pressentais. Deux tiers des personnes interrogées estimaient que la possibilité pour leurs collègues LGBTQ d'affirmer leur orientation sexuelle aurait un impact quasi nul sur les capacités opérationnelles de l'armée, voire qu'elle les améliorerait. En fait, la plupart des sondés étaient convaincus qu'ils avaient déjà des collègues LGBTQ et ne remarquaient aucune différence dans leurs aptitudes. Je me suis dit qu'il suffisait de s'ouvrir à la vérité d'autres personnes pour faire évoluer les mentalités. En se fondant sur les résultats de leur enquête, Gates et Mullen ont officiellement approuvé l'abrogation de DADT. Dans le bureau ovale, les chefs d'état-major ont juré d'appliquer la nouvelle politique sans délai injustifié. Mieux encore, le général James Amos, commandant des Marines et ardent adversaire de l'abrogation de DADT, nous a fait sourire lorsqu'il a dit « Monsieur le Président, je vous promets qu'aucun autre corps d'armée ne sera plus rapide que les Marines ». Et le 18 décembre, le Sénat adoptait le texte par 65 voix contre 31, avec 8 votes républicains. Quelques jours plus tard, j'ai ratifié la loi dans un auditorium rempli de militaires LGBTQ, en service ou réformés. Beaucoup d'entre eux étaient en uniforme, les visages exprimaient un mélange de joie, de fierté et de soulagement, et il y avait quelques larmes. Quand je me suis adressé à l'Assemblée, j'ai remarqué que certains militants, qui étaient parmi nos détracteurs les plus acharnés quelques semaines auparavant, souriaient maintenant avec reconnaissance. Lorsque j'ai repéré Brian Bond, je lui ai adressé un salut de la tête. Mais ce jour-là, c'est Mike Mullen qui a été le plus applaudi. Il a reçu une longue et chaleureuse ovation. En regardant le général sur l'estrade, visiblement ému malgré son sourire gêné, je me suis senti extrêmement heureux pour lui. J'ai songé qu'il n'était pas si courant qu'une authentique démonstration de moralité soit reconnue pour ce qu'elle est.